sommes entre Loire et Loin. C'est l'heure du magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous écouter et merci de nous suivre également sur les réseaux, sur notre page Facebook Entre Loire et Loin, où vous pouvez voir en vidéo les reportages et interviews que nous réalisons pour cette émission. Commentez, likez, partagez et échangez avec tous nos invités. Et nos invités du jour, justement, ce sont Agnès Frattini, qui a ouvert un atelier galerie, les écuries de Mussy à Adon. C'est aussi Richie, un dessinateur qui croque l'actualité avec humour. Ce sont Sophie Spilert et Gérard Chevalier qui vont nous présenter la prochaine campagne des Restos du Cœur. Et enfin, Pierre Aulas, un directeur artistique très particulier puisqu'il dirige la création olfactive, les parfums pour les plus grandes marques. Nous sommes entre Loire et Loin. On commence avec un petit peu de musique. À tout de suite sur ces deux ailes.
Sailing away on the crest of a wave, it's like magic. Rolling and riding and slipping and sliding, it's magic. Your sweet desire, you took me.
Higher and higher, baby.
It's a living thing. It's a terrible thing to lose. It's a given thing. What a terrible thing to lose. Can believe this is what you conceived from your worst day.
I'm taking a dive.
Oh, I'm moving in line, then you look back in time to the first day.
I'm taking
you and your sweet desire. You took me. It's a given thing. What a terrible thing to lose. Taking a dive, cause you can't hop the slide, floating downstream.
Taking a dive.
Oh, so let her go. Don't start spoiling the show. It's a bad dream.
I'm taking.
It's a living thing. It's a terrible thing to lose. It's a terrible thing to lose. What a terrible thing to lose.
Si vous êtes fidèle de l'émission, vous vous souvenez peut-être au mois de juin dernier d'un reportage que nous avions fait pour découvrir une expo d'art contemporain dans la grange de Mussy à Adon. Agnès Frattini, la maîtresse des lieux, nous avait alors parlé de son projet d'aménager les écuries pour y installer un atelier-galerie qui serait ouvert toute l'année. Eh bien, c'est chose faite depuis quelques semaines. Du coup, nous y sommes retournés pour voir, direction Adon, les écuries de Mussy.
Amis d'Entre Loire et Loin, bonjour. Dites-moi, quand est-on artisan, quand est-on artisan d'art et quand est-on artiste? On va poser évidemment cette question à Agnès Frattini qui nous accueille aujourd'hui dans son nouvel atelier et qui s'amuse à brouiller les cartes en fait énormément puisque Agnès, elle est tapissière, elle devient tapissière d'art sur des créations et elle devient artiste quand elle est peintre. Raconte-nous Agnès et merci de nous accueillir chez toi.
Merci d'être venue me voir. Et la frontière entre artiste et artisan d'art, moi, je ne veux pas la faire. J'ai toujours, justement, travaillé le travail de tapissière artisan et le travail de peintre soi-disant artiste, parce que je trouve que c'est un grand mot. Et c'est vrai que... J'ai pas envie de faire la frontière entre les deux, de mettre une barrière, en fait. Et pour moi, c'est la même chose, c'est le travail de création, en fait.
Alors, artiste, alors Agnès, on t'a découverte, c'était en juin dernier, beaucoup de gens te connaissaient déjà dans la région, nous on furent un peu partout, nous, dans le Montargois, et donc tu avais cette exposition annuelle qui présentait ton travail, et puis le travail de tes pairs, des artistes que tu sélectionnes, c'est en face, là-bas, dans une grange magnifique. Et aujourd'hui, tu ouvres... Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis quelque temps, oui. Tu as ouvert ton atelier, tu y rêvais depuis longtemps.
Voilà, donc c'est un atelier galerie, donc je travaille ici, c'est les anciennes écuries en face de la grange. Et donc j'ai mon travail qui est exposé en galerie permanente et je travaille sur place en même temps.
D'accord. Alors, je te demandais... Agnès, est-ce que tu as renoncé à la tapisserie traditionnelle? Tu me dis, ah, j'aimerais bien. D'un autre côté, est-ce que tu fais vraiment des choses très traditionnelles, en fait?
Non, l'idée, c'est de proposer aussi à mes clients des choses qui changent un peu, mais le travail de tapisserie, c'est de changer un tissu, c'est de refaire l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu au-delà, d'imaginer des choses un peu différentes. Et mes clients, ils ne se laissent pas toujours faire. Donc...
Alors, tu aimes, en fait, dans tout ce que tu fais, j'ai l'impression que tu aimes exciter notre regard, notre imagination, avec des choses qui bougent tout le temps. On pense toujours que c'est comme ça, mais en fait, ce n'est pas vraiment comme ça, parce que ça peut changer très vite. Donne-nous, par exemple, des exemples avec ce siège.
Un fauteuil, enfin un canapé, au lieu d'avoir juste un seul coussin pour l'assise. L'idée, c'est d'avoir six tissus différents pour pouvoir changer de décor au gré de ses envies, de l'humeur où on est le matin. Après, on peut avoir des cubes de différentes couleurs pour changer, soit faire un siège tout de la même couleur, soit avec six couleurs différentes.
Alors, Monsieur Weber, on peut se déplacer vers un autre siège ? Hein ? Parce que ça, on ne l'avait pas vu hein, lors de l'exposition. Agnès avait exposé, entre autres, ses toiles voiles, c'est ça ?
Panneau mobile, où là aussi, j'aime bien aussi jouer avec la transparence, la légèreté, pour que le regard ne soit pas arrêté, en fait.
Alors, mais voyons ce que tu fais en tapisserie. Par exemple, ça. Devant vos yeux ébahis, messieurs, dames, je vais... arracher violemment un fauteuil. Raconte-nous, Agnès.
Aussi, ben là, c'est vraiment l'association de la peinture, parce que je n'ai pas le tissu. Donc, ce n'est pas comme les autres sièges où j'utilise des tissus qui sont déjà faits. Là, j'ai utilisé un tissu uni en lin et j'ai peint le tissu. Et puis, bon, ce n'était pas suffisant dans l'originalité. Donc j'aime bien l'idée de pouvoir voir au travers, d'alléger les choses, que ce soit des rideaux, enfin des panneaux peints ou des sièges. Et c'est vraiment que le regard parte, soit pas arrêté et puis parte derrière.
Tu disais que tu le trouvais massif en fait, ce fauteuil à la base.
Oui, parce que bon, c'est quand même, il y a beaucoup de tissus, c'est quand même des sièges des années 40 qui sont confortables mais qui sont un peu lourds. Et j'avais vraiment envie de l'alléger. Et puis, oui, j'aime bien les choses où on n'est pas arrêté, en fait. Et après, bon, j'ai fait des cubes avec différentes couleurs pour pouvoir remettre dans le dossier quand on s'assoit pour que ce soit confortable.
Alors, je disais, la quand on a quand même la dernière fois à ton exposition en juin, il y avait quand même une chaise. Ce que tu parles de bouger un peu les structures et d'alléger les structures, c'est ce que tu fais beaucoup avec tes chaises. Alors voyons par exemple celle-ci.
Les chaises aussi, il y avait une garniture en fait au départ au-dessus fermé en tissu, et le dossier aussi était plein en bois. Et j'essaye de les alléger au maximum. Donc là, j'ai recouvert entièrement la boiserie en tissu.
C'est gainé,
c'est pas collé, c'est vraiment cousu. Vraiment au millimètre ajusté. Et après, l'idée, c'est vraiment de laisser le regard partir, comme dans les panneaux où on voit derrière. Mais bon, il faut quand même pouvoir s'appuyer sur une chaise, donc il faut quelque chose. Et j'utilise du plexi qui est suffisamment solide pour pouvoir s'asseoir dessus, mais qui laisse la transparence.
Alors, vraiment, le travail aussi d'Agnès Frattini, c'est le jeu des matières et le jeu des détails.
Oui. Et ben oui, après, donc, j'ai peint les tissus de fond. Donc, je peins, j'enlève des fils, je rebrode, je mets des perles.
Et tu disais que tu aimais aussi que sortir en fait de la structure avec des petits détails comme ceci, par exemple, c'est ça ?
Oui, parce que ça reste quand même quelque chose comme une peinture encadrée, le fond de l'assise. Et j'avais envie vraiment que le décor sorte du cadre. Et là, j'ai repeint le plexi pour redonner de la profondeur aussi. Là, il y a deux épaisseurs de tissu aussi pour redonner une profondeur. En fait, on voit en transparence, il y a un autre motif en dessous. Et j'aime bien cette idée de regard qui n'est pas arrêté, en fait.
D'accord. Et alors, Agnès Frattini, peintre, ouais. comment ça s'est vécu ? Tu as toujours peint en parallèle avec ta formation de tapissière ?
Oui, j'ai toujours peint en parallèle. Et depuis quand même pas mal d'années, je faisais ça justement en parallèle. Et là, j'ai vraiment envie de lier les deux professions, d'utiliser le tissu, parce que c'est vraiment une matière qui me parle beaucoup, le tissu, où on peut le broder, le trouer, le malmener, l'utiliser comme on veut. Et c'est pas quelque chose que l'on peut faire avec une peinture qui est sur un cadre... Mais j'aime aussi énormément la peinture à l'huile, mais c'est quelque chose de différent, c'est un résultat différent.
Et qu'est-ce que tu nous racontes dans tes peintures ? Est-ce que tu nous racontes la nature qui t'entoure ? Parce que la nature qu'il y a autour de cette maison, c'est quand même quelque chose d'une beauté assez époustouflante.
Oui, c'est la nature, les arbres beaucoup, ça me parle énormément, les arbres. Moi, je viens des Vosges, donc il y a des forêts magnifiques. J'ai ce souvenir, lorsque j'étais petite, des arbres, des forêts avec des mousses bien vertes. Et quand je suis arrivée au bord de la Loire, c'est vrai qu'on retrouve ces arbres un peu tout noueux. J'aime pas les arbres tout droits, des arbres de menuiserie. J'aime bien les arbres noueux, tortueux.
Peut-être aussi les transparences de l'eau, voilà, parce que tu me parles de la Loire.
Oui, beaucoup l'eau, et puis l'arbre aussi, ça permet d'avoir de la matière, du graphisme avec les branches, où on peut reprendre du trait, c'est ce que je travaille aussi dans mes... Là, c'est vraiment le travail du trait, de la matière.
Alors, quelque chose de très intéressant... On peut, évidemment, n'hésitez pas à investir dans l'art. Moi, ça m'est arrivé. C'était difficile un petit peu d'arriver au bout de ce que j'achetais parce que ça coûte cher. Mais justement, si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut aussi louer les œuvres d'Agnès. Ça, c'est génial comme idée.
Oui, des peintures à l'huile parce que bon, les sièges, c'est plus compliqué parce que c'est plus fragile. Mais la peinture à l'huile, si c'est bien entreposé, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai décidé de les louer justement pour pouvoir changer de décor. C'est un peu comme l'idée de changer son côté de coussin. On peut changer aussi sa peinture et pas se lasser parce que c'est vrai que souvent, on me dit « oui, mais j'ai peur de m'en lasser ». Donc, on peut tous les mois changer... les décors que l'on a sur le mur.
Et je crois que c'est pas cher au mois,
non,
une peinture.
Ça fait pas cher parce que. Et après, si on veut vraiment la garder, on peut l'acheter au bout d'un mois ou six mois que l'on a chez soi. Si on s'habitue, on peut l'acheter ou la changer.
Alors donc ça, ce sont de très bonnes idées, évidemment, pour les particuliers, mais aussi ce sont de très bonnes idées, messieurs, mesdames, les entrepreneurs, pour les entreprises, pour que les gens qui travaillent dans les bureaux aient un petit grain d'art et de spiritualité dans le lieu, ou évidemment les restaurants, ou pourquoi pas une mairie.
Oui, une mairie aussi, beaucoup les entreprises, oui, les restaurants, ils aiment bien changer aussi de décor. Aussi, les médecins, oui, aussi.
Bon, alors oui, évidemment, en effet, les médecins, etc. Alors, Monsieur Weber, on va se demander pourquoi vous dites les salles d'attente de gynéco. Hein. Parce que voilà, ça, c'est l'esprit facétieux d'Agnès. Alors, si on pouvait, quand on va chez le gynécologue, se retrouver sur des tables comme ça, ça serait formidable, Agnès. Mais tu disais aussi que tes copines aient trouvé ça d'un goût douteux.
Oui, le côté gynéco, ça n'a pas trop plu aux femmes, mais moi j'aimais bien la structure, je la trouve très moderne. Et d'en faire justement une chaise longue pour lire, pour se reposer, je trouvais ça plutôt sympathique.
Voilà. Bon, alors, on peut visiter cet endroit en t'appelant à l'avance quand même.
Vous venez, je suis là, c'est bien, soit vous prenez rendez-vous. Et donc l'exposition est tout le temps, est permanente, vous pouvez venir quand vous voulez.
Bon, c'est bien. Est-ce que, évidemment, il y a une nouvelle édition de ton exposition annuelle qui se prépare ?
Oui, sinon dans la grange, il y aura l'exposition annuelle, donc de mi-mai à mi-juin. Là, c'est un peu plus long que d'habitude parce qu'on fête les 10 ans d'exposition. Donc, il y aura des choses nouvelles. Il y aura 2 concerts. Il y aura. C'est encore pas trop défini le programme, mais éventuellement des gens qui viendront faire des démonstrations les week-ends. Des lectures de poèmes.
Et donc, il y aura cet espace qui sera ouvert aussi, donc ça va être encore plus grand.
Oui, là, je vais tout enlever mon travail et je vais présenter ceux qui sont venus dans la grange dans les 10 ans qui ont précédé. Ils vont venir et il y aura une représentation de chacun ici.
C'est magnifique.
Et dans la grange, il y aura des nouveaux exposants.
Voilà, hein. Vous vous dites quand même, mais où est ce lieu extraordinaire dont on parle depuis 12 minutes ? Eh bien, ça s'appelle la Grange de Mussy. C'est, on est à Adon encore. Hein.
C'est Adon, oui. Voilà. C'est entre Adon et Fins.
Voilà. C'est voilà. Beau. C'est beau. Même quand il ne fait pas beau, c'est beau. Voilà. Merci beaucoup, Agnès.
Merci à vous.
Oui. Y alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocerle.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Song, telling my whole life with these words, killing me softly with his song.
Y atrás quedan temores, solo la soledad de donde me conoce. Qué extraño pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Pedazo de mi vida narraba esta canción, de donde me conoce, qué extraño pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer.
Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly.
C2L Radio.
Nous sommes toujours entre Loire et Loing. C'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Merci de nous écouter. Alors, vous le savez, ce qui nous intéresse dans cette émission, ce sont les histoires singulières, les personnalités, les projets, les talents de la région. Et lui, bah, il en a du talent. C'est un dessinateur. Il croque l'actualité avec humour. C'est Richie, au micro de Sandrine Manteau.
Alors Richie, c'est le petit nouveau quand même dans le paysage montargois, un dessinateur, encore une fois, qui nous a bien fait rire, d'ailleurs qui a déjà fait rire entre Loire et Loing. On vous rappellera des souvenirs tout à l'heure. C'était au moment de l'émission qu'on a tournée, une émission au long cours au hangar lors de la Journée internationale de la paix. On y reviendra tout à l'heure. Donc Richie, jeune arrivé dans le Gâtinais, dans le Montargois, il y a combien de temps, Richie, que tu es vu domicile ?
7 ans, ça fera 8 ans cette année.
Ouais. Ça fait 8 ans. Ouais. Et tu as fait plein de choses, tu as eu une vie professionnelle riche. Mmh. Dans quel domaine ?
La communication.
La communication. Et puis un jour, Richie, il s'est trouvé quand même un petit peu de temps pour devenir dessinateur à part entière. Et ça, ce sont les deux premiers et les deux derniers. Je vais y arriver, vous inquiétez pas.
Ça sera pas forcément les derniers.
Tac. Tu veux, Monsieur Weber, vous voulez que je regarde de ce côté-là ou je regarde plutôt là-bas ? Tu te débrouilleras ? D'accord. Alors, j'ai envie de regarder là maintenant. Voilà, ça, ce sont les deux bébés de Richie. Je sais plus, du coup. Il y en a un qui a paru en mars, l'autre qui est paru...
Le bleu en mars.
Le bleu en mars.
Et celui-ci, en décembre.
Voilà. Le bleu en mars et l'autre en décembre. Alors, des dates et des doutes. Richie, raconte-nous, ça parle de quoi ?
Alors ça, c'est le tout dernier, c'est celui de décembre, en fait. Et l'idée, ça a été de faire des dessins d'actu, en tout cas des thématiques d'actualité qui m'intéressaient. Donc, les traiter, bien sûr, avec humour. Hein, donc l'idée, c'est à chaque fois de sortir en fait des dessins sur un thème de manière extrêmement drôle, dans la mesure du possible, bien entendu. Alors je vais quand même appuyer mon discours. Je vais quand même appuyer mon discours d'un dessin. Par exemple, prenons celui de Xi Jinping. En tout cas pour moi, je trouve qu'il est intéressant de parler de manière drôle d'événements qui sont moins drôles. Et donc moi, ce que j'ai noté en fait en actu en 2021, par exemple, c'était la fuite radioactive. Donc en juin. En juin 2021, fuite radioactive en Chine. Donc tout cela, je me suis dit comment l'illustrer de manière simple. Et on va trouver en fait un dessin avec Xi Jinping, donc qui est quand même un personnage assez facile, je dois l'avouer, à caricaturer.
De toute façon, ça va paraître en incrustation,
oui, voilà.
Tu sais, c'est moderne.
Oui, hein.
Toi qui es infographiste, je suis sûr que...
Très bien. Et donc, l'idée, c'est de dire, vous verrez donc le dessin en incrustation. Donc, un de ses collaborateurs lui dit au grand guide suprême de la Chine toute puissante, il y a eu une fuite. Donc, bien sûr, je parle de la fuite radioactive, mais lui dit oui, je sais. Et l'autre lui répond oui, mais une fuite d'informations, un peu paniqué, un peu terrorisé. Donc l'idée, c'est de à travers des événements qui me paraissent finalement assez terribles, de faire sourire ou de faire rire parfois. Voilà.
Et puis d'aller le principe même du dessin d'humour, du dessin d'humeur, c'est d'aller à l'essentiel en un flash en fait. Par exemple, dernièrement, tu as partagé, c'était peut-être sur Instagram ou sur le Facebook, tu as partagé cette histoire de soldes.
Ah oui,
c'était
oui.
Quoi les soldes ? Et je me suis dit, mais oui, c'est évident.
Voilà, parce que les soldes, pour moi, ce qui est terrible dans les soldes d'hiver, finalement, j'ai pensé aux commerçants. Et je me suis dit, ce qui est terrible, c'est que la plupart des gens, la grande majorité des gens, vont acheter en ligne. Donc les soldes, ils les verront en ligne. Et nos commerces de proximité vont disparaître. Donc forcément, j'ai fait un dessin sur ce thème. Donc on voit un bonhomme d'un magasin de vêtements. Alors le magasin de vêtements, je l'avais appelé Maudit. Hein. Il a beau mettre sur sa vitrine de moins 50%, moins 60%. Deux femmes passent devant son magasin et l'une dit à l'autre, oh là là, j'ai trouvé les meilleurs soldes sur Internet en ligne. L'autre les regarde dépité et sur sa vitrine, il avait inscrit donc tout doit disparaître. C'est la fameuse phrase qu'on met sur les soldes.
En fait,
et la case suivante, notre pauvre homme doit et remplace par va, donc tout va disparaître et c'est malheureusement une réalité. Bon, alors voilà, c'est un dessin qui est un peu cruel, mais qui rappelle, j'espère en tout cas, un petit peu avec humour, une cause, quoi. Le soutien aux commerçants de proximité, tout simplement. Quoi.
Voilà. Ah, c'est beau ça. Alors, tout a démarré avec un travail, une commande pour un de tes clients, cette histoire de dessin. Raconte-nous.
Oui, parce qu'en fait, alors, au départ, moi, je suis concepteur-rédacteur en communication, mais je fais du dessin depuis très, très longtemps. Et en fait, depuis 3 ans, un de mes clients grand compte m'a dit, j'aimerais que tu fasses un dessin tous les mois pour illustrer notre e-newsletter. Donc voilà, je fais un dessin humoristique tous les mois, c'est pour une banque. Et à la suite de ça, je me suis dit, mais finalement, c'est intéressant parce que c'est un exercice intellectuel très intéressant parce qu'on doit toujours trouver, avec une contrainte spécifique, un dessin réalisé et surtout une petite touche d'humour. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, je ne me suis pas rouillé. Parce qu'à un moment, on a toujours la crainte de s'être rouillé sur l'humour et sur le dessin. Et je me suis dit, pourquoi je ne me lancerai pas et me relancerai pas sur le dessin vraiment en créant une BD que j'irai proposer moi-même à l'ensemble des libraires, enfin à tous les libraires qui souhaitent la voir. Et donc, j'ai sorti Démasqué en mars l'année dernière. Alors, pourquoi je ne suis pas passé par un éditeur? Tout simplement parce que j'étais assez pressé et je voulais vraiment sortir cette BD dans les temps, c'est-à-dire au moment de la crise du Covid, puisqu'elle traite de la crise du Covid. Donc c'est la première BD qui s'appelle Démasqué, où là, en fait, page après page, on va trouver un petit peu tous nos comportements en temps de crise. Donc c'est vraiment une petite caricature de la société, de nos comportements, tout le monde y passe.
Hein, alors, on peut, Monsieur Weber, prendre un dessin au hasard? Enfin, au hasard, c'est pas vraiment un hasard, puisque on va vous les passer donc en incrustation. Voilà. Celui-ci, il te plaît bien? Il est un peu long?
Il est un peu long. Alors voilà, parce que cette première BD, en fait, il y a à la fois des dessins, une case, et puis certains dessins où vraiment on est sur le style BD avec 2-3 cases.
Alors celui-là, déglingué.
Alors celui-ci, finalement, l'idée, c'était de dire quel sera notre futur. Donc par rapport à cette crise. Donc je me situe en 3021 et donc on va voir deux personnages qui sont les humains de 3021. Alors forcément, je vais ils sont moches. Voilà, bon, ils sont tels que j'imagine en fait, c'est affreux parce que c'est très pessimiste comme vision, mais bon, c'est aussi humoristique hein. Donc nos personnages, ils ont des petits crânes hein, parce qu'ils ont un peu moins de cerveau hein, et puis ils sont assez forts en fait hein, ils sont assez gros hein, parce que peut-être qu'ils ont un peu trop abusé sur certaines denrées et en fait, ils vont devine qu'ils sont dans un musée où est exposé un masque, les fameux masques que tout le monde porte maintenant depuis 2 ans. Et donc j'ai inscrit masque rituel 2021 parce qu'effectivement ces personnages se demandent ce que c'est et donc imaginent vraiment quelque chose d'autre. Donc il dit à son fils qui s'appelle Xerox, et tu vois Xerox, on est quasi certain que nos ancêtres utilisaient ce rectangle de papier ou de tissu dans un cadre exclusivement religieux. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se foutre de notre gueule, finalement.
Monsieur Weber, vous n'avez pas le droit de rigoler parce que vous allez bouger à la caméra.
Voilà. Et ce qui a été intéressant dans Démasquer, en fait, ce qui m'a plu, c'est que moi, j'étais parti sur des dessins uniquement. Et puis un jour, mon épouse, ma moitié, qui travaille également dans la communication, m'a dit, mais pourquoi tu ajouterais pas des citations qui peuvent apporter quelque chose en plus dans la réflexion sur notre comportement, sur nos incertitudes, etc. Et là, par exemple, dans Déglinguer, hein, c'est le titre de ce dessin, j'ai mis une citation de Pline l'Ancien. La seule certitude, c'est que rien n'est certain. Voilà.
Alors, ces bouquins, c'est donc du Ritchie, de A à Z, puisqu'ils ont été édités par monsieur.
Voilà, alors en fait, pour pallier au problème de trouver un éditeur assez rapidement, j'ai la chance en fait d'avoir une structure qui m'a permis de créer moi-même les livres en question, les BD en question, et surtout donc l'idée c'était d'avoir une démarche en direct avec les libraires pour les convaincre moi-même, discuter avec eux, savoir si ça correspondait aussi à leur attente en termes de qualité. J'ai travaillé également avec un imprimeur local, c'est très important pour moi de travailler en local, donc je travaille avec une imprimerie que je peux citer d'ailleurs, l'imprimerie Prévost à Orléans, le groupe Imprimis, et on a travaillé en fait sur le type de papier, bien entendu, la qualité, etc. Donc voilà, tout ça pour faire nous-mêmes l'ensemble du travail, et ensuite donc le livre, la BD est en vente à la fois sur une dizaine de librairies, donc de Montargis à Nemours jusqu'à Paris, dont je donnerai la liste sur mon site internet, et sinon elle est également donc en vente sur mon mon site Richie-Raza.
Voilà. Oui, mais tu te doutes bien qu'on va aller d'abord chez un libraire pour acheter, bien sûr. Pas sur un site.
Et exactement, justement, c'est ce que je préfère. Donc l'idée, c'est que on est complètement d'accord. Donc l'idée, c'est d'être présent en local, surtout dans le Loiret. Et donc je suis présent notamment à la librairie des écoles et puis à la librairie Hérisson. Voilà.
Bon, c'est bien. Alors, on va vous laisser découvrir quelques dessins que Pascal va nous mettre à l'écran. C'est bien ça? Je lis dans tes pensées. Zing zing, en dessous, là, il y a l'adresse du site. Je finis par deux petits trucs adorables. Alors, il y a Richie qui a des sacrés copains. Par exemple, Charlie Chaplin, rien que pour lui, a écrit cette petite phrase d'esprit. L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Et puis, un autre copain très proche, Sigmund.
Le grand,
l'unique
Freud,
a écrit, rien que pour lui bien sûr, « L'humour ne se résigne pas, il défie. » Et Dieu sait que Sigmund en avait. Merci beaucoup Richie, à bientôt.
Bah, merci, à bientôt.
Bonjour, je suis Jean-Paul, naturopathe dans votre région. Je vous propose du lundi au samedi ma chronique « Le Conseil Santé » sur Radio C2L pour vous donner toutes les clés de votre bien-être au quotidien.
C2L Radio 89.3.
Nous sommes toujours entre l'heure et loin sur ces deux ailes. Et vous avez déjà entendu parler de la crise du bénévolat qui mène la vie dure aux associations depuis quelques années. Bon nombre d'entre elles ont du mal à continuer à vivre pour cause de manque de personnes prêtes à s'engager. C'est le cas des Restos du Cœur. Patrice Avzar.
Les 4, 5 et 6 mars prochains, c'est la grande collecte nationale des Restos du Cœur. Pour nous parler de ce rendez-vous et du besoin de bénévoles, nous recevons la présidente du département. Sophie Spilière, bonjour.
Bonjour.
Donc, ces 3 jours, 4, 5 et 6 mars, c'est le grand rendez-vous annuel pour les Restos du Cœur.
Oui, sur toute la France et bien sûr dans le Loiret, 70 magasins vont être collectés et pour cela, nous avons toujours besoin de ce qu'on appelle des bénévoles d'un jour. C'est-à-dire que vous travaillez, vous n'avez pas beaucoup de temps dans l'année, mais vous êtes la mission des Restos du Cœur vous tient à cœur et vous avez 2 heures, 3 heures, une fois ou 2 fois au cours de ces 3 jours à nous offrir pour nous aider à faire une collecte dans un des magasins du Montargois et vous serez évidemment toujours les bienvenus et vous saurez que vous nous avez rendu grand service.
Plus de 70 magasins, on a besoin de combien de bénévoles, que ce soit sur tout le département quoi, et sur le Montargois?
Alors, pour l'instant, il nous manque 100 de bénévoles, c'est beaucoup. Il en manque, très honnêtement, il en manque un peu plus sur la métropole que sur le Montargois. Mais sur le Montargois, on aurait une bonne 30 de bénévoles de plus, on serait très contents.
Pour ceux justement qui aimeraient donner un petit coup de main lors de ces 3 jours, ils s'adressent où?
Alors, ils s'adressent à collecte.restoducœur.org ou ils vont sur le site restoducœur.org et là, à partir du moment où on a mis son code postal, on est dirigé vers un magasin qui va être près de chez vous.
Donc, besoin, comme vous le disiez, de bénévoles d'un jour pour ces 3 jours,
oui.
Mais je crois que les Restos du Cœur ont besoin de bénévoles en permanence. Ce n'est pas que pour ces 3 jours-là.
C'est ça. Nous avons toute l'année besoin de bénévoles qui souhaitent s'impliquer une journée dans la semaine, 2 journées dans la semaine, notamment sur le centre de Chalette-sur-Loing, dans lequel nous cherchons beaucoup de bénévoles pour prendre des tâches qui sont des tâches classiques de distribution, mais aussi des tâches un petit peu particulières. Par exemple, je recherche quelqu'un qui pourrait s'occuper du stand bébé. Quelqu'un qui accueillerait les mamans avec les bébés et qui les aide, qui leur distribue les matériels dont elles ont besoin, du lait, des couches, etc. Je cherche quelqu'un qui s'occupe du stock, je cherche quelqu'un, et puis je cherche un responsable de centre. C'est un travail très intéressant. Le responsable de centre actuel va s'en aller. C'est un homme qui va assurer la suite et qui va tout expliquer à son successeur et qui va... Et qui vraiment fera que tout va être pris en main dans de très bonnes conditions. C'est une tâche, vous savez, c'est une tâche qui va vous occuper à peu près à mi-temps. Si vous êtes un retraité dynamique, vous trouverez que le bonheur que vous en retirez vaut bien le temps que vous y passez.
Sur Chalette, donc, combien de bénévoles permanents on aurait besoin?
On a 30 de bénévoles. S'il en faudrait plus, parce que on a certains bénévoles qui souhaiteraient passer la main. Et si on en avait 40, ça serait mieux. Et puis, je vous dis, il y a des tâches assez particulières qui tentent certains puis qui tentent pas d'autres. Par exemple, les titulaires du permis P sont des personnes qui sont bienvenues pour aller collecter l'aide alimentaire dans les grandes surfaces. On peut avoir quelqu'un qui ne s'occupe pas forcément de la distribution. Tout le monde n'est pas absolument fait pour faire de la distribution et être au contact des personnes accueillies, mais il y a des travaux qui se font à l'arrière et qui sont absolument indispensables, par exemple chargé d'hygiène alimentaire, responsable administratif. Ce sont des tâches qui nous rendent le plus grand service et qui néanmoins ne demandent pas forcément d'être au contact des personnes accueillies. Et puis on a bien sûr toutes les tâches qui sont au contact des personnes accueillies et qui nous apportent beaucoup et avec lesquelles nous nouons des liens importants.
Donc là, pour les personnes qui seraient intéressées donc pour rejoindre ce comité de Chalette, cette antenne chalétoise, pareil, elle s'adresse au département, au contact départemental ou directement ici sur Chalette?
Alors elles peuvent s'adresser directement, hein, c'est 32 rue Claude Debussy à Chalette. Le téléphone du centre, c'est 02 38 93 05 71. Mais de la même façon, quand on s'en rappelle plus, on va sur restoducœur.org et puis devenir bénévole et on remplit le formulaire et on est sûr que le formulaire va nous arriver. C'est pas un formulaire parisien, il nous arrive dans le Loiret, c'est sûr à chaque fois.
Voilà, donc ça c'est noté. Donc besoin de bénévoles, ça comme vous le disiez. Et puis... Oui. On va dire l'actualité des Restos du Cœur, c'est la panne pour deux camions frigorifiques. On peut appeler au don également pour ça?
Ah bien sûr. Alors oui, c'est vrai que là, conjoncturellement, nous avons une grosse tuile. Hein. Deux camions, le camion d'Anigny, le camion de Montargis, qu'il va falloir remplacer de manière assez urgente. Et là, bien sûr, on appelle au don. Alors, si vous avez un camion frigorifique à nous donner, nous venons tout de suite le chercher. Mais si vous avez la gentillesse de faire un don au Resto du Cœur et que, nous serons heureux de le trouver pour remplacer ces deux camions qui malheureusement, dont nous n'attendions pas la défection en ce moment.
Voilà, donc le message est passé. Donc on rappelle, hein, grand rendez-vous pour la collecte nationale, 4, 5 et 6 mars prochain, besoin de bénévoles. Le bénévolat ici sur Chalette, comme nous l'a indiqué la présidente départementale, il y a un fort besoin. Plusieurs postes sont à pourvoir, voilà, ouais. On peut dire ça comme ça.
Oui, plusieurs postes. Donc, au niveau de Chalette, on a une trentaine de bénévoles. On n'a pas évolué. Moi, je suis au Resto de Chalette depuis 2012. J'ai été responsable en 2013. Et depuis 2012, le nombre de bénévoles n'a pas du tout évolué. On est resté à une trentaine de bénévoles. Hein. Mais par contre, l'activité du centre a beaucoup évolué. Hein, quand on voit en campagne d'hiver, le nombre de familles et le nombre de personnes servies a augmenté de 75%, à peu près, c'est presque le double. Et quand on est en campagne d'été, on a augmenté de 200%. Bon, ça c'est dû à un changement de barème par rapport à l'hiver. Le barème d'été est beaucoup plus favorable depuis 4 ans. Donc il y a eu un effet cumulatif, augmentation du nombre de bénéficiaires et l'effet barème.
Ça, on chiffre à combien, vous dites forte augmentation, chiffre à combien le nombre de personnes aidées, le nombre de familles
par exemple, en hiver, au départ, on était à 170 familles, maintenant on est à 300 familles, et on était à 430 personnes servies, maintenant on est à 750. Donc c'est quand même énorme. Et pour l'été, donc on était parti de 80 familles, on en sert 230 maintenant en moyenne, et le nombre de personnes, on est passé de 180 à 560 personnes en été.
Donc oui, forte augmentation, oui. La crise sanitaire a amplifié cette augmentation,
non ? Non. La crise sanitaire a eu deux effets. Déjà au début, on a une forte diminution en mars 2020, puisque les centres n'ont pas fermé, on n'a pas fermé, mais on a servi, on était 8 bénévoles pour servir tout le monde, et les gens avaient peur. Donc on a eu une baisse de fréquentation qui a été très importante. Mais maintenant, on peut dire qu'en 2022, quoi, actuellement, on est au même niveau que l'année dernière. Donc il n'y a pas eu cette forte augmentation qu'on craignait par rapport perte d'emploi, crise sanitaire, etc.
Forte augmentation, comme vous dites, des bénéficiaires, oui, augmentation donc par conséquent du nombre de repas servis et tout voilà. Ce qui suit avec.
Voilà, le nombre de repas servis actuellement, on sert à peu près 4800 repas par semaine. Hein. ce qui fait à l'année, pour la période d'hiver, les 16 semaines, 76 000 repas à peu près.
D'accord.
Et en été, on sert 3 500 repas, ce qui fait un cumul annuel de 96 000 repas. Oui, c'est ça, 96 000 repas.
Donc, augmentation, comme vous le disiez, du nombre de personnes reçues, stagnation du côté des bénévoles,
oui.
Et vous êtes donc en pleine recherche.
En pleine recherche, d'autant que sur les 8 années que j'ai passées au Restaurant du Cœur, les activités ont augmenté, on a fait des activités supplémentaires, notamment les sorties culturelles. On a eu, on a aussi des activités supplémentaires comme l'hygiène et la sécurité. Ça, c'est des choses qui sont très importantes.
Donc, vous recherchez quel type de bénévole alors ici précisément ?
Actuellement, un centre comme Chalette, il n'y a qu'un responsable. Et je suis aidé fortement par mon épouse. Donc le centre de Chalette, avec l'activité qu'il a, le centre de Chalette est le deuxième centre le plus important du Loiret. Le Loiret comporte 14 centres, puisqu'il y a dernièrement il y a eu le centre de Beaugency qui a été ouvert. Donc sur les 14 centres, par rapport au nombre de personnes servies, nous sommes le deuxième centre le plus important, le premier étant Fleury. Donc, l'activité du centre repose uniquement sur deux personnes. C'est de plus en plus difficile, hein, puisque en servant 750 personnes par semaine, il y a toute la logistique derrière qui doit suivre. Et en plus, le fait de n'être que deux, c'est pas envisageable. Il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a personne, malheureusement, pour reprendre le centre si on devait s'absenter pour quelque motif que ce soit. Donc, ce que l'on cherche actuellement, c'est d'épauler dans un premier temps le responsable avec au moins deux co-responsables pour faire basculer certaines activités, certaines gestions, mettons la gestion du stock, la fonction ressources humaines, tout ce qui est hygiène, on pourra revoir par la suite les diverses activités, de façon à décharger le responsable de centre et alléger un petit peu sa tâche et qu'il puisse un peu, de temps en temps, prendre des vacances.
Oui, parce que c'est une gestion quotidienne quand on voit tout ce qu'il y a de stocké et les personnes reçues.
Oui, par exemple, la gestion du stock, faut être là quand on a les livraisons. Donc, en période d'hiver, on a une livraison toutes les semaines. Il faut réceptionner les produits, contrôler, les mettre en stock sur les étagères. Hein. Il faut placer les produits dans la réserve. Après, une fois que les jours de distribution, le matin, il faut alimenter tous les rayons. Donc sortir les produits de la réserve pour les mettre en rayon. Donc c'est une charge qui est très importante. En plus, chaque semaine, on a un inventaire du stock qui est transmis à Ingré, puisqu'on a des produits de l'Union européenne. Et hebdomadairement, on doit communiquer les entrées et les sorties de ces produits. Donc, il y a un suivi qui est très important au niveau du stock. C'est une activité qui prend au moins 2 jours et demi par semaine. Et la personne qui s'occupe du stock est là du matin à 8 heures jusqu'à le soir à la fermeture du centre.
Oui, donc il faut une personne qui soit vraiment disponible.
Oui, il ne faut pas. On a des bénévoles qui souhaitent venir 2-3 heures, une journée par semaine, mais sur cette activité-là, qui est vitale pour le fonctionnement du centre, il faut une personne disponible, hein, au moins 2 jours et demi, 3 jours par semaine.
Oui, parce que actuellement, au sein de l'équipe, personne ne se sent capable de prendre votre succession et celle de votre femme.
On a fait des appels à candidature. Après, faut être réaliste. On peut pas. On vérifie quand même les compétences de la personne. En amont, parce qu'on lâche pas, on va pas lâcher un bénévole comme ça dans la nature pour gérer un centre. Hein. C'est vraiment trop, trop important. Donc, en amont, la personne qui se propose pour des postes de cette dimension-là, ce que l'on fait, on la fait tourner déjà, parce qu'il faut savoir que le responsable de centre, dans un centre de distribution, doit savoir tout faire. Il doit pouvoir, au pied levé, comme ça s'est passé lors de la pandémie, remplacer tel ou tel bénévole qui est absent. Hein, donc, le responsable de centre doit avoir une activité, connaître toutes les activités du centre. Et c'est pour ça que quand on a une personne qui postule sur ces postes-là, on la fait tourner sur le centre pour déjà connaître et apprendre toutes les activités. Et en plus, on l'envoie dans d'autres centres pour une formation, parce que d'un centre à un autre, il peut y avoir des fonctionnements qui diffèrent un petit peu d'un centre à un autre. Donc c'est très important que la personne qui postule sur ces postes-là puisse avoir une vision différente du centre où elle va être.
Hein. Dernière petite chose, donc vous souhaitez avec votre femme passer la main, vous aimeriez le faire quand ?
Alors, on souhaite partir fin juillet, hein. Ça a été, la présidente est au courant. Pourquoi ? Parce que on commence à être dans un état physique, on commence à être fatigué. Moi, ce que je souhaite, dans un premier temps, c'est trouver des bénévoles et ensuite faire un tuilage, essayer de les accompagner le plus longtemps possible et après me mettre en retrait. Si ça peut se faire, moi, je suis partant pour former là où les personnes qui le souhaitent autant de temps qu'il le faudra, parce que il faut dire l'activité d'un centre, connaître l'activité d'un centre des Restos du Cœur, ça se fait pas en 3 mois ou 6 mois, donc il faut une période quand même assez longue, et moi je suis tout à fait disposé à rester. Peut-être je viendrai moins souvent pour aider cette personne.
Et les personnes qui seraient intéressées donc pour vous succéder ici, elles s'adressent directement à Chalette ou est-ce qu'il faut passer par le départemental ?
Non, elles s'adressent directement à Chalette, hein, aux responsables de centre. Je les recevrai et je leur parlerai plus précisément de l'activité, des diverses gestions qu'il faut connaître de façon à faire fonctionner le centre dans les meilleures conditions possibles.
Thank you.
Nous sommes toujours entre Loire et Loing sur ces deux ailes. Et notre dernier invité exerce une profession très singulière, très mystérieuse. Et pourtant, vous la sentez tous les jours. Il est directeur olfactif. Il crée donc des parfums pour les plus grandes marques. Et un éditeur lui a récemment demandé d'écrire un livre, un carnet olfactif. Et ce sont les senteurs de son jardin en Puisaye qu'il a souhaité raconter. Pierre Aulas est notre invité. Vous pourrez également le rencontrer, vous, demain au Vox, où il sera en conférence à partir de 14h30, demain, donc dimanche 27 février. Il est au micro de Sandrine Manteau.
Nous avons la chance d'avoir plusieurs seringas qui, en mai, créent une déferlante de fleurs blanches et embaument l'air de leurs délices mielées, verts tendres, frais, aux accents presque guimauves. Nous avons récemment utilisé le seringa avec Dominique Ropion, le roi des fleurs blanches, et la prometteuse Fanny Ball dans une variante d'Alien de Thierry Mugler, Alien Mirage. Ensuite viendra le tilleul, début juin. Il inondera le jardin d'une de mes odeurs préférées. Je pourrais rester des heures en extase olfactive sous son ramage quand l'après-midi touche à sa fin et que l'odeur est maximale, riche sans être saturée, facettée mais pas confuse. Elle exhale le miel, l'amande, la fleur blanche, mais aussi la tige coupée, la sève, avec un côté presque aqueux mêlé à des accents de foin fraîchement coupé. Une véritable symphonie olfactive qui est quasiment un parfum à elle seule. Bonjour Pierre Aulas.
Bonjour Sandrine.
Bienvenue à Entre Loire et Loing.
Merci de m'avoir invité.
Alors, Monsieur Weber nous a autorisé, chers amis, une petite contravention, puisque nous voilà entre Loire et Loing. Hein, Pierre Aulas, vous avez élu domicile en Puisaye.
Oui, en Puisaye. Désolé.
Ah ben non, mais c'est un très bon choix. D'ailleurs, c'est pour ça...
Mais vraiment tout près quand même du Loiret, hein, vraiment tout près. On est à 10 minutes de Douchy, donc c'est quand même pas très loin.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, vous êtes pas loin de la fabuloserie et on a eu l'occasion de faire un joli reportage en fabuloserie, j'allais dire, qui est un monde en soi. Et le vôtre, Pierre Aulas, voilà un monde en soi que vous présentez dans ce petit livre que je trouve d'emblée un très joli petit objet.
Petit format, oui.
Petit format. Vous appelez ça un carnet olfactif.
Je vous explique.
Oui, allez-y.
Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas auteur réellement. C'est le premier écrit que je fais. Mais c'est parce que ça, c'est une façon aussi d'exprimer et de mettre en mots ce qui est la base de mon métier, qui est de créer des parfums. Donc, je suis complètement dans l'olfactif. Et en fait, c'est une toute petite maison d'édition qui s'appelle le Journal d'un Anosmique qui m'a contacté en mars 2020. Et parce qu'ils ont une collection qui s'appelle Empreinte, dans laquelle ils proposent à des gens de la parfumerie, donc ça peut être des parfumeurs, des directeurs olfactifs, des personnes comme ça.
En Pierre, fait, vous êtes directeur olfactif, c'est ça?
Je suis directeur artistique olfactif, exactement. Je travaille à la création des parfums, je suis un intermédiaire entre les marques, donc mes clients comme Chloé, comme Mugler, comme Azzaro, et les nés avec qui je dialogue tous les jours pour pouvoir les aider à mieux faire leurs parfums pour correspondre à l'ADN de la marque. Et donc, je reviens sur la petite maison d'édition qui me contacte en mars 2020 en me disant on a donc cette collection Empreinte sur laquelle on a déjà des carnets sur l'Inde, sur le Brésil et la Namibie. On aimerait bien que vous soyez l'auteur de la quatrième. Alors, j'ai évidemment beaucoup réfléchi parce que ça demande beaucoup de travail. Il se trouve que c'était le confinement. Et je leur ai répondu, écoutez, moi, ça m'intéresse, mais on est peut-être tous un peu en confinement parce qu'on a peut-être un tout petit peu trop dépassé les bornes en voyageant partout, en dépensant beaucoup de pétrole avec tous les voyages qu'on a pu faire. Donc, moi, ça m'embête un peu de faire l'apologie d'un pays lointain avec ses odeurs, même si j'aurais pu parler de la Grèce, même si j'aurais pu parler de la Colombie, de Bali, tout ça, parce que j'y ai aussi fait des voyages olfactifs. Et je leur ai dit, bah, écoutez, c'est simple, vous n'avez que des grands et beaux pays lointains. Moi, je vous propose de faire le jardin dans lequel je suis confiné. Alors, c'est vrai que ce petit carnet olfactif aurait pu s'appeler Puisaye, ça aurait même pu s'appeler Les Bonins du nom de mon hameau, quasiment, puisque je décris principalement les odeurs de mon jardin. Mais bon, on a quand même décidé de l'appeler Bourgogne, même si, évidemment, je ne parle pas des choses de Dijon ou des choses qui sont complètement plus lointaines.
Alors, votre jardin, c'est vraiment un univers en soi. Et vous le décrivez très bien, vous faites une description géographique, une description de chaque essence, en fait. Vous le connaissez sous toutes ses formes. Vous appelez ça votre continent de bonheur.
Ben oui, vous imaginez, parce que j'ai la chance maintenant d'être installé définitivement ici depuis 2 ans. Depuis le confinement, en fait, j'ai réalisé que je pouvais travailler beaucoup à distance. Donc, je suis majoritairement donc, en Puisaye. Je fais des petits allers-retours à Paris quand il y a nécessité. Mais en fait, c'est vrai que quand on fait un confinement et qu'on est dans son jardin et qu'on a le temps de regarder toutes les petites choses pousser, évidemment, c'est un continent de bonheur. Et c'est surtout un havre de paix, c'est surtout une grande respiration dans sa vie, en fait, tout simplement.
Alors donc, on a invité aujourd'hui Pierre parce qu'il a un métier phénoménal qui approche l'art, en fait. Et puis, à côté de ça, donc, il est jardinier, il est apiculteur, il est cuisinier, il fait d'extraordinaires confitures. Quoi d'autre ? Et puis, vous êtes céramiste, Pierre, céramiste de talent.
C'est une deuxième passion.
Vous en parlez également dans votre livre. Vous parlez peu du chant lyrique, mais vous pratiquez aussi le chant lyrique.
Oui, mais le chant lyrique, ça sent pas grand-chose. C'est un peu plus compliqué à mettre en odeur, quelque part.
Et puis surtout, j'espère que vous avez compris, à travers ce premier extrait que j'ai lu, que ce petit fascicule, ce petit carnet olfactif, exhale en fait des senteurs extraordinaires. Et donc, vous le dites, c'est votre premier bouquin. C'est peut-être le seul, mais il est très bien écrit.
Merci beaucoup, Sandrine.
Voilà.
Très touchée.
Et vous êtes épaulé par Xavier de Fouchécourt, qui est un ami qui propose au sein de ce petit livre quelques illustrations, voilà, comme celle-ci, par exemple.
En fait, c'est un principe de la maison d'édition et je trouve que le principe est très, très intéressant. Ils m'ont demandé de choisir quatre odeurs que j'évoque et que je décris, qui sont importantes dans ce petit fascicule. Et on les a envoyées donc à Xavier de Fouchécourt. On les a envoyées d'une manière complètement neutre. Ça s'appelait 1, 2, 3, 4. Xavier ne savait pas sur quel pays j'allais écrire. Il était d'ailleurs persuadé que j'allais écrire sur la Grèce parce que tous les deux, on a une passion pour la Grèce. Donc, il a dû être surpris des odeurs que je lui ai envoyées. Donc, on lui a envoyé 4 odeurs, 1, 2, 3, 4. Et lui, il a eu à faire des illustrations sans savoir du tout ce qu'il sentait. Et ça, je trouve ça magnifique parce que ça fait appel complètement qu'à l'émotion. Et moi, j'ai été sidéré quand j'ai vu arriver ces encres, ces illustrations à l'encre. J'ai été sidéré du rapport qui peut y avoir. C'est-à-dire celui-là, par exemple, celui-là, c'était un absolu de cassis que je lui ai envoyé. Et c'est vrai qu'il a quelque chose qui va du noir au bleu, au pourpre. Et parce qu'en plus, l'absolu de cassis, ça sent pas vraiment le cassis que vous connaissez dans les confitures, par exemple, parce que en parfumerie, on utilise le bourgeon de cassis que l'on distille. Et ça donne un absolu. Et l'absolu de cassis, ça sent quelque chose de très fort. Ça sent presque un tout petit peu l'urine de chat, avec un côté un peu soufré. Vous savez, en parfumerie, on n'utilise pas que des bonnes odeurs.
Oui, c'est ce que vous disiez aussi, hein.
Ah ben c'est ça qui est intéressant.
Il faut toujours un petit chouïa d'animal.
Moi je trouve que c'est important dans les parfums d'avoir une toute petite trace d'animalité. Alors ça peut être par plein de matières premières, mais c'est toujours en toute petite touche parce que ça équilibre par rapport aux bonnes choses et ça met en exergue les bonnes choses. Et puis il faut pas oublier que le sens de l'olfaction, c'est notre sens le plus primaire et c'est celui qui est le plus lié à notre animalité en fait.
Alors, vous lui avez aussi proposé le miel.
Oui.
Il a trouvé, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, la petite illustration jaune et marron. Et puis ça, le bleu.
Alors, ça, dans les petites fioles, je lui ai fait passer un parfum qui est un parfum important pour moi. C'était mon premier parfum Thierry Mugler, c'est la Cologne de Thierry Mugler. Et donc là, c'est pareil, il a illustré ça avec du bleu, du vert. C'est pratiquement les couleurs du packaging de ce parfum-là.
Et l'illustration qui vous semble peut-être le plus important, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ?
C'est la fève tonka.
Oui.
Alors ça, c'est une matière première que peu de gens connaissent. On l'utilise beaucoup en parfumerie, nous, pour donner des notes un peu ambrées, amandées à nos parfums. Ça, c'est une note de fond. Mais moi, je l'utilise beaucoup en cuisine et je l'utilise notamment dans des confitures. Et je l'utilise même dans ma vinaigrette. Moi, je suis assez fou de cette matière première. C'est une fève qui est grosse comme celle du cacao qu'on trouve au Brésil. Et ça a une odeur un peu amandée, légèrement cacaotée, un peu vanillée. Et regardez la couleur d'illustration qu'il a mis sans savoir du tout. Il connaissait même pas la fève tonka, mais je le trouve très très fort.
Alors, ça m'amène vers un deuxième extrait. J'ai beaucoup aimé lire votre livre.
Merci, ça Sandrine. Je suis très touchée. Ah, vous avez aimé parce que ça se lit vite. On s'ennuie pas très longtemps,
non,
c'est
mais
ça.
C'est très impressionnant.
Ah, le compliment déguisé.
De retour à la maison, le cérémonial des confitures débutait. Tri grossier pour enlever les brindilles, petit feu pour faire éclater les fruits, passage au moulin à légumes pour enlever le gros des pépins, peser, ajout du sucre et petit bouillon jusqu'à obtention de la consistance idéale, celle qui fait la goutte sur l'écumoire. Pendant tout ce processus, la maison était divinement saturée d'une odeur à la fois acidulée, suave, avec des facettes de foin fraîchement coupées et de sirop de violette. Cette odeur a probablement contribué à la construction de mon orgue personnel d'odeur et explique certainement mon exigence quand on travaille une odeur de fruits rouges pendant le développement d'un parfum. Je tourne.
En fait, vous parliez, juste pour expliquer, en fait, ce sont les odeurs de framboises sauvages que je ramassais en Savoie, puisque je suis savoyard, donc dans mon enfance, c'était ce qu'on faisait en confiture. C'est pour ça que c'est acidulé avec cette petite odeur de violette.
Alors, mes must, parenthèse, en confiture, concoctés exclusivement avec des fruits issus de notre jardin. Permaculture oblige.
Bien sûr.
Griottes et rhubarbes, poires aux épices, cassis, groseille et mûre, reine Claude et coin, mûre à la menthe, poire et verveine, et ma préférée, la confiture de tomates vertes à la fève, tonka.
La fameuse. Ça apporte, ça fait un très beau contraste avec la tomate verte. Ça apporte quelque chose, de, comme je vous le disais, un petit peu amandé, qui est un peu doux, presque un peu grillé, et c'est délicieux.
Et à chaque fois, vous nous expliquez, ça vous amène absolument à un souvenir de parfum, et là, vous expliquez comment vous êtes servi de cet absolu de fève dans un parfum qui est un parfum d'Azzaro.
Oui, Wanted d'Azzaro. Oui, on a pris une très jolie fève tonka du Brésil, qu'on a choisi avec le parfumeur avec qui j'ai créé ce parfum qui s'appelle Fabrice Pellegrin, et on a choisi une fève tonka qui est en plus issue d'un commerce équitable au Brésil, et avec, voilà, on essaye dans la majorité des cas de faire en sorte que ça aide aussi les populations locales.
Ouais, c'est très beau. Alors, ce petit livre, il est bien écrit, il nous fait découvrir un univers incroyable. Dans le premier chapitre, vous en saurez plus sur le parcours professionnel et du moins la naissance de la vocation professionnelle de Pierre. Et puis, il est aussi émaillé, outre les illustrations, émaillé de très jolies citations, très bien choisies, même d'haïku. Voilà, on a affaire à un monsieur cultivé. Merci,
merci
Pierre.
Merci Sandrine.
Pierre Aulas, directeur olfactif, interviewé par Sandrine Manteau. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez le rencontrer demain en conférence au Vox à Châteaurnard, où il sera à partir de 14h30, je crois, toute l'après-midi. Vous pourrez discuter et en savoir plus sur son métier mystérieux. Nous étions entre Loire et Loin. Merci de nous avoir écoutés sur ces deux ailes. Rendez-vous samedi prochain à la même heure à la radio. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Merci à toute l'équipe, Sandrine, Patrice, Anita, JB. C'était Pascal Weber au micro et à la réal. Bonnes semaines à toutes et à tous. À l'écoute de ces deux ailes, bien sûr. It's been done.